France Inter, Marion Lourd, Ali Badou, le 6-9.
Le débat éco du vendredi. Bonjour Thomas Porcher, Dominique Seux.
Bonjour à tous.
Cette semaine, Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont reçu le rapport très attendu de cette commission qui avait été chargée après l'été de réfléchir sur l'avenir de l'intelligence artificielle en France, de faire des recommandations, 25 précisément. La présidente du conseil d'administration de l'école normale supérieure, Anne Bouvreau, et l'économiste et professeur au Collège de France, Philippe Aguillon, ont piloté ce travail. Un travail qui assume d'être, je cite, « optimiste ». Et positif. Un exemple, d'ici 10 ans, l'IA, l'intelligence artificielle, pourrait doper la croissance d'un point. Et les auteurs sont confiants sur l'emploi. Vous avez lu ce rapport l'un et l'autre. Est-ce que vous partagez cette confiance, Thomas Porcher?
Je suis un peu plus pessimiste, mais j'ai trouvé le rapport très très bon. J'ai trouvé le rapport très bon. Il y avait quelques points morts, par exemple la question environnementale est très vite, ils sont très vite passés là-dessus. La question des petites mains qui entraînent les intelligences artificielles est même pas abordée. Mais après, ce que j'ai aimé dans le rapport, c'est qu'il y a une réhabilitation de l'importance de l'État pour créer un géant de l'intelligence artificielle dans l'investissement, dans la formation, dans la structuration du marché. Et ça va à l'inverse de ce qu'on a entendu depuis une dizaine d'années sur le fait qu'il fallait laisser faire les entrepreneurs, le secteur privé, que l'intelligence artificielle allait naître dans un garage. Là, finalement, ce rapport contredit cette idéologie qui nous avait été vendue ces dernières années.
Dominique Seux.
J'ai trouvé le rapport excellent aussi. Il faut inciter tous ceux qui, parmi nos auditeurs, souhaitent comprendre ce qui est en train de se passer sur l'intelligence artificielle, à lire ce document qui se trouve en vraiment en deux clics, parce qu'il est très pédagogique et très clair. Je n'ai pas lu néanmoins le même rapport que Thomas Porcher, parce que je n'ai pas trouvé une ode à chaque page de l'État, comme il semble l'avoir vu. Il y a une ode, en tout cas, il y a une description de ce que font les acteurs et la technologie et l'innovation. Et je partage, oui, c'est vrai, cette lecture plutôt optimiste sur le plan économique de ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, même si, il faut quand même apporter une nuance immédiatement, qui est que sur le plan technique, l'intelligence artificielle générative n'est pas encore complètement au top. J'ai posé une petite question très simple à Copilot, qui est l'IA de Microsoft, et à ChatGPT. Oui. Quel est l'âge d'Ali Badou et Thomas Porcher? Eh bien écoutez, ils n'apportent pas la même réponse. Vos dates de naissance ne sont pas les mêmes. Et donc ça pose petit problème. Et après j'ai demandé aux deux...
une intelligence artificielle française qui, elle, aura la bonne réponse.
Oui, je leur ai demandé aussi quelle est la couleur du logo de France Inter. ChatGPT m'a répondu bleu. Et Copilot m'a répondu blanc sur fond rouge. Ouais. Ce qui me semble, selon mes informations, plus exactes.
Ou alors ils sont daltoniens. Mais Thomas Porcher, pourquoi vous étonnez que ce rapport se tourne vers l'État alors qu'aujourd'hui, les grandes entreprises de l'intelligence artificielle sont toutes américaines?
Oui, alors, oui, mais il y a eu une place importante de l'État dans toutes les innovations numériques aux États-Unis. En amont de la chaîne d'innovation, c'est toujours l'État qui a investi. Pour Internet, c'était DARPA. Quand vous regardez l'iPhone, sur la reconnaissance vocale, l'écran tactile, Internet, le GPS, tout ça, c'est des inventions, finalement, où l'État a investi en amont. Et là, ce rapport, dans les 7 recommandations, la première recommandation, c'est quoi? Sensibiliser les Français à l'intelligence artificielle. Très bien. La deuxième, investir 5 milliards de l'État français. 5 milliards,
dans c'est les entreprises du numérique.
Effectivement.
Ce qui n'est rien par rapport aux sommes investies par les GAFAM.
Mais ce qui représente les 5 milliards d'économies qu'on va faire sur l'ensemble des ministères.
Oui, mais ça reste très faible par rapport au montant investi aux États-Unis par des entreprises privées.
Non, par aussi l'État. Et d'ailleurs, au Japon, en Chine et aux États-Unis, qui représentent les deux poids lourds dans l'intelligence artificielle, il y a des investissements massifs de l'État américain et de l'État chinois. Et ensuite, le rapport dit qu'il faut restructurer le marché pour que puisse émerger ce concurrent européen face aux concurrents chinois et américains. Donc on voit bien quand même que l'État a un rôle, et que l'État a un rôle dans le fait que cette innovation serve l'intérêt public. Du moins, c'est ce que dit le rapport.
Il se trouve que j'ai rencontré il y a quelques jours le dirigeant de la nouvelle start-up française qui s'appelle Mistral, dont on parle beaucoup. Sonia De Villers avait reçu dans ce studio Arthur Mensch, qui est le patron de Mistral. C'est une jeune start-up qui pèse 2 milliards d'euros de valorisation. Ils sont 34 salariés, et celle qui a ouvert un bot conversationnel qui s'appelle Le Chat. Au cours de la rencontre, il ne me semble pas que le mot État ait été prononcer. Donc je crois qu'il faut... Vous savez, ce qui se passe, Ali, c'est que on en a déjà parlé au moins une reprise depuis la rentrée, ça progresse et ça avance dans les entreprises. Ça avance dans les entreprises à une vitesse assez stupéfiante. Alors, attention, l'intelligence artificielle existe depuis des années. Oui. Vous vous souvenez que Kasparov avait été battu par DeepMind aux échecs en 1997. Donc c'est très vieux. Mais ce qui est nouveau, c'est l'intelligence conversationnelle. Je pose une question en langage humain et il répond en langage humain. Ça se répand dans toutes les entreprises. Que chaque auditeur se dise, est-ce que j'ai déjà utilisé, dans mon cas professionnel ou personnel, un bot conversationnel depuis un an? La réponse est, à mon avis, immensément majoritairement, oui.
Alors, soyons concrets, Thomas Porcher. Dans quel secteur voit-on arriver l'intelligence artificielle arriver vite et changer les choses? C'est en priorité.
Dans toutes les tâches où il y a des répétitions, ça peut être les conseillers de clientèle, ça peut être les chauffeurs, ça peut être la santé. Il y a tout un tas de secteurs qui vont être affectés, comme ça a été le cas avec l'arrivée d'Internet, où on a eu fermé par exemple toutes les banques physiques pour privilégier les banques en ligne. Donc il va y avoir un impact. Maintenant, il faut toujours faire attention parce qu'on a un passif. Encore une fois, Internet, aujourd'hui, au début, on nous a vendu que ça allait sauver le monde, qu'il n'y allait plus avoir de pauvreté, que ça allait augmenter très fortement la productivité. Toutes les études ont montré que la relation, elle n'était pas toujours établie entre le fait qu'il y ait Internet et la productivité, et que la lutte contre la pauvreté dans les pays pauvres, l'impact d'Internet reste très incertain sur les effets de la pauvreté. Donc, et d'ailleurs le rapport le dit bien, quand vous prenez la partie sur l'environnement, ils vous disent, bon, il y a un coût environnemental qui est quasiment certain, il a été établi. Mais après, ils vous disent, mais attention, les gains en termes de recherche et d'innovation peuvent être supérieurs au coût, mais rien n'est assuré.
Bon, Dominique ?
Sur l'environnement d'abord, l'électricité en France est décarbonée. C'est un argument massif pour que les centres de données et de calcul se passent en France. C'est un argument. La question ne se pose pas de la même manière en France qu'ailleurs. Je suis ravi qu'on puisse être d'accord là-dessus. Où est-ce que, très concrètement, c'est pour les codeurs. Plus 50% de productivité pour les codeurs, ça va gagner un temps fou. Sur, évidemment, les téléconseillers. Mais, en fait, dans les entreprises aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, vous avez, j'ai mentionné Copilot, on va pas faire la publicité, mais Microsoft, dans les outils Word, en fait, c'est installé. Ça existe déjà. Après, vous avez la médecine. Ça démarre moins vite qu'on ne le dit jusqu'à maintenant. Quand on parle des médecins qui sont à l'hôpital, on dit, est-ce que vous utilisez pour la lecture des scanners ou des IRM l'intelligence artificielle? C'est pas la réponse majoritaire. Mais c'est la traduction. Je crains que le métier de traduction ait un avenir un petit peu incertain. Vous avez la synthèse de documents. Vous avez la présentation de PowerPoint. Vous avez beaucoup de choses. En revanche, il y a des secteurs dans lesquels on ne le verra pas tout de suite. J'ai posé la question hier à un spécialiste du transport aérien. Est-ce qu'on va l'utiliser dans les compagnies aériennes? Bah écoutez, tant que la fiabilité n'est pas 100%, non, évidemment. Et donc, et j'ai mentionné tout à l'heure l'existence du logo de France Inter, la couleur du logo de France Inter, on voit que la fiabilité n'est pas encore tout à fait là.
Il est rouge. Thomas Porcher, d'un mot, comment est-ce que vous voyez cet optimisme se traduire en matière d'emploi? Puisque là, les exemples que vient de citer Dominique, ce sont des secteurs où il y aura de la destruction massive d'emplois.
Alors le rapport est très intéressant là-dessus.
Ouais, le rapport est très intéressant. Il part quand même du principe qu'il faut qu'il y ait des destructions pour avoir des créations. Mais encore une fois, on ne parle pas des petites mains qui entraînent ces intelligences artificielles, qui sont souvent dans des pays pauvres, qui sont payées à la pièce, 1 à 2 ou 3 dollars. Et ça, il faut en parler parce que derrière, on a l'impression quand on lit le rapport qu'il n'y a que des innovations et qu'il n'y a pas de petites mains derrière, alors qu'il y a toujours des petites mains. Après, l'impact environnemental, bien sûr, on a une électricité décarbonée, mais il y a les data centers consomment énormément d'eau. Vous savez, la semaine prochaine, vendredi prochain, c'est la journée mondiale de l'eau. Donc peut-être qu'il faudra en parler, hein, parce qu'il y a aussi d'autres consommations vous avez des tensions très fortes aujourd'hui dans certaines régions au niveau de l'eau. Par exemple, c'est le cas en Espagne, à Barcelone, où ils importent de l'eau. Donc il y a quand même toujours des questions au développement massif de cette technologie, des questions annexes qu'il faut prendre en compte et qui sont un peu passées très rapidement dans ce rapport.
Ce que dit le rapport sur l'emploi, c'est que dans 19 emplois sur 20, il existe des tâches que l'intelligence artificielle ne peut pas accomplir. Donc le risque n'existe pas. 5% des emplois sont menacés. Mais la question, c'est de savoir si ce qu'on appelle l'effet de productivité, il existe la productivité, est supérieur à l'effet d'éviction. là où un emploi pourrait être menacé.
Ouais, mais c'est le calcul est un peu rapide là-dessus, moi, je trouve. La théorie avancée est celle que vous dites. Mais c'est la même chose qu'on nous a dit pour Internet. Et encore une fois, les études qui ont été faites, qui ont été publiées, parfois qu'on regardait l'ensemble de la vie d'Internet depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, montrent que les effets en productivité ne sont pas aussi élevés que ceux qui avaient été dits. Et ça, c'est intéressant. Donc, s'il n'y a pas de productivité, il y a plus de destruction d'emplois que de création. Et ça, c'est important aussi à rappeler.
Je crois que l'intelligence artificielle remplace davantage des tâches que des emplois. Et donc, c'est une nuance.
Quelle est la nuance, justement, explication de texte ?
La nuance, c'est-à-dire que ce sont des tâches accomplies par certaines personnes dans le cadre de leur emploi. Mais leur emploi est préservé. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? C'est de l'industrialisation des données de l'intelligence. Bon, eh bien, on a encore besoin, derrière, d'intelligence naturelle.
Toujours sur l'optimisme et la dimension positive de ce travail, l'IA pourrait doper la croissance d'un point. C'est pas énorme.
Un point
c'est
par
beaucoup,
an.
Thomas
c'est pas
Porcher.
Mal. Quand on a
en France,
0,8. Oui, là, si on avait un point de plus par an, on serait content. Hein, on serait content. Donc, à voir. Ça reste des prévisions. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Le rapport est intéressant parce que il est ni pessimiste ni trop optimiste, c'est vrai. Mais toutes les avancées, en fait, les investissements et l'argent qu'il faut mettre et le coût environnemental, il est certain. Les avancées, ce sont des prévisions. Après. Dire qu'on peut se passer complètement de l'IA quand on a deux gros géants qui s'y mettent pleinement, c'est faux. On doit avoir notre part à prendre et il va falloir faire en sorte qu'en Europe, on ait des IA, ça c'est sûr.
La question pour la France, c'est de savoir, est-ce que cette affaire d'intelligence artificielle remet les compteurs à zéro ? On a perdu les batailles précédentes, Internet, les grands GAFAM, est-ce que ça remet les compteurs à zéro ? On l'espère, évidemment. Mais c'est une chaîne complète, c'est-à-dire, il y a les supercalculateurs, il y a les données, il y a les puces. Ça fait beaucoup de choses à la fois, mais je me dis que ce matin, il faut un peu d'optimisme sur ces sujets. C'est pas sur l'angle économique que les craintes, nous devons avoir le plus de craintes, c'est plutôt sur la malveillance et les mauvaises utilisations.
Merci à tous les deux, et donc le rapport est en ligne, et il est très facile à trouver sur le site du gouvernement, et j'indique que nous recevrons demain dans le grand entretien à 8h20 Anne Bouvreau et Philippe Aguillon qui ont donc piloté ce travail sur l'intelligence artificielle. Thomas Porcher, Dominique Seux, merci.